Bonjour à tous, je m'appelle Ulysse et je m'intéresse à la sociologie critique des médias et de leur fonctionnement économique. Ces connaissances que je pense inhérentes à toute citoyenneté, je les ai glanées dans un parcours d'études qui m'a mené à préparer le concours du CAPES de documentation. Et si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, les professeurs documentalistes, ils sont chargés de la gestion du CDI, à savoir le centre de documentation et d'information au lycée et au collège. Et ils sont particulièrement chargés de l'acquisition par les élèves d'une culture de l'information et des médias. C'est une tâche particulièrement importante, je pense, en temps de guerre militaire, guerre économique, guerre informationnelle aussi, qui se conjugue dans un perpétuel temps d'urgence. Alors ici, je voudrais vous parler des biais journalistiques. Un biais, vous le savez peut-être, c'est quelque chose d'inhérent à nos processus cognitifs qui influent sur nos raisonnements, qu'on en soit conscient ou non, et qui peuvent mener à des illogismes, des façons de travailler, de s'exprimer, d'écouter qui ne sont pas construits de manière rationnelle. Et je parle ici de la raison communicationnelle qu'il faut distinguer de la raison instrumentale. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les biais que l'on peut rencontrer dans le champ journalistique, que ce soit à la télévision, dans les journaux ou à la radio. Et je souhaiterais vous en proposer une typologie pas du tout exhaustive. Mais car dans les périodes troublées que l'on traverse et que l'on devra malheureusement encore traverser, être à l'affût critique de ceci, les débusquer, sélectionner activement les médias que l'on écoute, j'y viendrai à la fin, me semble être un enjeu majeur, et nous avons besoin de journalistes qui tiennent compte de leur déontologie professionnelle. Alors le premier biais auquel nous pouvons penser presque instinctivement tient au lieu entre les grands propriétaires de groupes de médias et les rédactions. Ça paraît peut-être un peu naïf, mais Bernard Arnault possède les Échos et le Parisien, Xavier Niel, le Fonds d'indépendance pour la presse, Bolloré CNews et anciennement C8, Patrick Drahi, le groupe Altice, Rodolphe Saadé, La Tribune, RMC, BFM TV, etc., etc. Et tous ces rapports favorisent l'adoption par les journalistes de l'idéologie implicite, voire explicite parfois, de leurs patrons. En effet, plusieurs cas témoignent d'un dévouement des journalistes et des chroniqueurs en faveur de leurs intérêts privés, mais aussi de leurs opinions politiques. Et les médias français se regroupent autour d'une méga concentration dans les mains d'une dizaine de milliardaires, propriétaires par exemple de 89,9% des quotidiens nationaux et des journaux vendus, de 55,3% des parts d'audience de la télévision et de 40,4% des parts d'audience de la radio. Et vous avez peut-être suivi ça l'année dernière, mais les auditions faites par l'ARCOM en 2024 ont montré le manque de pluralisme politique une ambiance de scandale médiatique. Et vous vous rappelez sûrement de l'affaire Hanouna et Louis Boyard. Les moyens financiers dont ces propriétaires disposent, peuvent remédier aux amendes données par l'ARCOM. Peut-être que certains ne savent pas ce qu'est l'ARCOM, c'est l'instance de régulation de l'audiovisuel français, pour leur manquement aux règlements propres aux fréquences publiques. Aussi, lorsqu'un article récent du Figaro parle avec emphase de l'effort de guerre que nous allons devoir fournir bientôt, il nous faut aussi nous rappeler que c'est la famille Dassault qui à la fois possède le Figaro et est ancrée dans l'industrie militaire. Et le cas de Vincent Bolloré est particulièrement flagrant car il n'y a même pas là seulement promotion de ses entreprises, mais promotion de discours pour lesquels il mène une bataille culturelle, ou selon ses propres mots, et ça fait peur, un combat civilisationnel. Ce qui fait écho à Gramsci et de son idée d'hégémonie culturelle. C'est ainsi que la sécurité et l'immigration sont des sujets qui reviennent souvent. Et ce premier biais est structurellement renforcé par le fait que le champ journalistique est solidaire des classes sociales dominantes et en est le produit. Par exemple, le sujet de la laïcité n'est que trop rarement vu à travers le prisme des journalistes musulmans ou musulmanes. Un autre exemple, c'est que il y a largement plus de mentions de proximité amicale et familiale autour des disparus, des morts israéliens, que des morts palestiniens, qui sont souvent résumés à des chiffres, anonymisés. Ainsi, par le fait de la proximité sociale, le champ journalistique se trouve avoir des affinités avec les classes dirigeantes. Et dans le même ordre d'idées, il est intéressant de voir comment le vocabulaire et le lexique employés peuvent être vecteurs de biais linguistiques et qui sont aussi par conséquent politiques. On parle de charges sociales et non pas de cotisations. On parle de coût du travail et non pas de la volatilité du capital. On parle des fraudes aux prestations sociales et rarement de fraudes aux cotisations sociales. Et toutes ces injonctions médiatiques, à travers la méfiance à l'égard des fonctionnaires, dont certains d'entre vous font peut-être partie, ou par exemple les très nombreuses anti-chômeurs slash assistées du journal Le Point, infusent la normalisation d'un discours en faveur des patrons. Et l'ARCOM a montré en novembre 2024 que les apparitions à la télé d'employés et d'ouvriers a baissé de 16% en 2013 à 8% en 2023. Et cette représentativité quasi nulle, en fait, elle empêche l'émergence de ce que Gramsci appelait des intellectuels organiques et l'émancipation de ces classes sociales auxquelles les journaux vendent pourtant la compétition, la réussite individuelle comme valeur cardinale, en même temps qu'elles sont invisibilisées. Et il y a un paradoxe ici, c'est que, bizarrement, le métier de journaliste, dans son exercice, en tout cas le plus répandu, en bas de la hiérarchie éditoriale, est un métier particulièrement précaire. On peut parler d'un déclassement social des journalistes qui travaillent en CDD, qui font des piges et qui se doivent d'être très productifs pour assurer leur sécurité financière. Même si elle se fait au déprimant d'un vrai travail d'investigation. Et cela crée un biais d'urgence qui favorise un journalisme de bureau, sans temps ni espace pour préparer et publier des reportages coûteux. D'autant plus que nous sommes dans un contexte où ce rôle est de plus en plus assumé par des IA rédactionnelles. Et pour ne pas être un peu manichéen, l'IA d'un côté elle facilite bien sûr le travail d'investigation pour ce qui relève par exemple de l'automatisation de la fouille de data en ligne. L'affaire Kadhafi et le financement de la campagne de Trump sont des exemples de recherches réellement chronophages dans des véritables nébuleuses financières. Mais à côté de ça, elles sont aussi incapables de trouver d'authentiques informations qui ne soient pas déjà apparues quelque part sur le web. Et donc il faut ainsi valoriser une forme de journalisme qui s'extirpe de la course à la parution frénétique et qui s'émancipe du domaine du data mining où tout s'est déjà un petit peu automatisé pour préférer l'enquête de terrain. Et ce biais des économies de temps concerne aussi la mesure de l'audimat. En effet, on invite toujours les mêmes personnalités qui feront le plus d'audience alors même qu'elles ne représentent qu'une toute petite partie du spectre politique ou universitaire français. Parce qu'il est tellement chronophage en fait de lire des travaux universitaires afin de repérer tel maître de conférence capable de s'exprimer avec clarté et qui soit rapidement disponible qu'en fait on préfère inviter toujours les mêmes personnes qui accumulent énormément de capital médiatique avant de se présenter par tout hasard aux élections présidentielles. Et je vous invite à vous rappeler du traumatisme qui était la candidature de Zemmour. J'aimerais maintenant vous inviter à nous pencher ensemble sur l'utilisation de sondages. Il y a eu récemment, dans le cadre d'une commission d'enquête sur l'organisation des élections en France, très intéressante, je vous invite à la suivre, une audition qui pointait du doigt les connivences entre les instituts de sondage et les médias qui commentent leurs résultats, alors qu'ils sont détenus pourtant par les mêmes actionnaires majoritaires. Et vous allez dire que je fais un peu une fixette, mais je vais quand même reparler de Bernard Arnault pour Opinion Way, de Bolloré pour le CSA, Consumer Science Analytics, etc., etc. Or, ce qu'il faut dire, c'est que comme le disait Pierre Bourdieu, et vous connaissez la phrase sûrement déjà, c'est que l'opinion publique n'existe pas. On sonde des gens alors qu'ils ne sont pas familiers des questions qu'on leur pose, et on croit pallier au manque d'expertise ou d'expérience par le nombre de personnes consultées. Et les journalistes comblent leurs émissions avec des chiffres produits par des agences telles que l'IFOP ou l'Ipsos. Et ces statistiques ne sont pas inutiles, mais elles paraissent malheureusement moins pertinentes que les opinions mobilisées et engagées. Or, c'est au sein de ces engagements, à l'intérieur de la lutte syndicale ou associative, que l'on trouve les avis les mieux construits, car les plus intéressés, les concernés directement par le sujet. Ainsi, les sondages, dans un cercle performatif, construisent l'opinion publique davantage qu'ils ne la décrivent. Et pour continuer de répéter ce que dit Bourdieu, toute enquête d'opinion suppose aussi que tout le monde peut avoir une opinion, ou autrement dit que la production d'une opinion est à la portée de tous. Et on suppose que toutes les opinions se valent, alors qu'en fait, rien que le fait de cumuler des opinions qui n'ont pas du tout la même force réelle conduit à produire des artefacts dépourvus de sens. Pire, le simple fait de poser la même question à tout le monde se trouve impliqué l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes, autrement dit qu'il y a un accord sur les questions qui méritent d'être posées. Et le résultat est une opinion publique sacralisée, ainsi, indiscutable, et l'équivalent de l'antique formule « Dieu est avec nous » est un petit peu devenu « l'opinion est avec nous ». Et cette opposition, elle existe également sur les plateaux. On quitte un petit peu les sondages pour voir comment Sylvain Bourmeau, qui est cofondateur d'AOC, du journal AOC, il dénonce une tendance à faire débattre des personnes qualifiées et des personnes porteuses d'opinion. Le postulat trompeur serait de penser que c'est dans la confrontation de deux thèses que naît la vérité, mais on se trompe parfois de registre entre convaincre et informer. Un tautologue qui use de sophisme pour relativiser le réchauffement climatique face à un climatologue est un intrus naturellement dans un processus de médiation entre la communauté scientifique et le public. Et pour rester dans le sillage de Bourdieu, et promis après j'arrête, on peut s'intéresser à un effet dont il parle dans son livre sur la télévision. Il disait que le champ médiatique était en permanente comparaison et qu'à cause de logiques de concurrence, tous cherchent à relayer les mêmes infos en ajustant avec des micro-différences pour ne pas être dépassés. Et au final, il disait que le paysage médiatique s'uniformisait et que cela poussait les politiques à réagir avec des mesures exagérées en réponse à des news un petit peu nulles en fait, mais qui ont bénéficié d'une attention homogène de la part de tout le monde. Une autre limite structurelle à la liberté des journalistes tient à la nécessité pour eux de nouer dans la durée des relations avec leurs sources. Je vais passer très rapidement sur ça, mais donc il y a certaines organisations qui développent des stratégies élaborées pour nouer avec les journalistes des relations qui fonctionnent à leur profit. Enfin, Sylvain Bourmeau, encore lui, désigne également une obsession pour le changement. Il explique que pour se distinguer des autres rédactions, les journalistes ajoutent des nouveautés supplémentaires qui peuvent parasiter les informations principales. Il y a là une priorité et une hiérarchisation particulière donnée aux dernières petites nouvelles. Or, c'est une priorité qu'il juge malsaine, puisque amenée toujours sans contextualisation, sans articulation, et ne faisant qu'extrapoler un petit détail au déprimant de l'information principale. Et en parlant d'événements, on peut regarder encore plus loin et observer comment l'actualité relativise sans cesse ce qui continue d'agir à travers le monde. Peu à peu, on s'habitue et on ne présente plus ce qui a déjà été présenté. Le temps d'antenne ne revient pas sur ce qui n'a pas changé, à moins d'y dédier parfois une émission documentaire thématique. Parce que ce qui connaît une situation stable, même si elle est jugée honteuse et immorale, ne voit rarement les projecteurs se retourner vers elle une seconde fois. Et Robert Ezra Park, qui est un sociologue américain du 20e, appelle le crépidement de l'actualité, à savoir ce qu'il appelle les big news, l'écume à la surface qui trop souvent masque les courants de fond qui traversent la société. Et ce biais nous rend amnésique à propos de scandales qui ont certes fait du bruit, mais n'intéressent plus les plateaux après quelques mois, si ce n'est malheureusement quelques semaines. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent la rubrique à vrac de Gottlieb, dans laquelle il y a une planche qui parodie finalement l'emphase médiatique qui agit comme un feu de paille. Et il montre avec humour comment, à partir d'une famine dans un pays fictif, la société s'en indigne avant de l'oublier et trouver une autre crise à dénoncer. La situation des Ouïghours ou des Rohingyas est révélatrice de ce problème. Paradoxalement, c'est lorsqu'une situation se résout qu'on entend reparler d'une telle crise, et c'est-à-dire au moment où sa médiatisation, eh bien, elle est le moins utile. Et ce même phénomène, on pourrait encore l'extrapoler et voir comment un cadrage, le choix des sujets et l'absence de justification comme procédé de légitimation apparaît aussi comme légitimation du système global dans lequel on vit. Le fonctionnement de la Ve République ou notre mode de société capitaliste ne deviennent sujets que lors de très rares crises qui nous mettent en état d'exception, mais restent dans le registre de l'immuable et de l'acté pour toujours. Et pour finir, je souhaiterais rappeler la distinction historique entre deux conceptions opposées du public, celle de Walter Lippmann en premier, qui était politique américain en début de XXe, avec une méfiance pour l'implication du public, qui pense passif, acéphale, facilement manipulable et incapable de comprendre par lui-même. Il légitime la propagande à travers son idée de fabrique du consentement. Et d'un autre côté, celle de John Dewey, qui est chercheur en pédagogie et philosophe américain, pour qui le public est autonome, capable de se fédérer en groupe et de se renseigner par lui-même, capable de s'impliquer et de, directement dans le bon fonctionnement des médias et de se mettre en action pour résoudre des problèmes communs. Et cette divergence entre les deux penseurs souligne des visions opposées de la démocratie. Or, je pense que cette capacité d'organisation dont parle Dewey, je crois que nous la possédons. Des associations comme Acrimed prouvent que nous sommes critiques des médias et que certaines catégories de public surveillent étroitement ce qui se passe à la télé ou dans des pages de journaux. Il en va donc d'une responsabilité éthique de vous, de moi, de tout le monde, du spectateur en général. Et cela fait écho à la proposition portée par l'économiste Julia Cagé, qui est une alternative des médias, économique des médias, et qui demande, au-delà du pluralisme des titres de presse et des chaînes de télévision, le pluralisme de la propriété des médias, à travers un actionnariat multiple, diversifié, où la majorité des droits de vote ne soit pas entre les mains d'une minorité d'individus. Et je vous invite à peut-être vous pencher sur cette proposition d'un fonctionnement économique alternatif des médias, qui pourrait peut-être pallier à certains des problèmes que j'ai mentionnés plus tôt. Merci de m'avoir écouté.